famille et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Et bienvenue sur Radio Canu 102.2 FM. Vous êtes bien sur le Canu Info du vendredi, une semaine sur deux, le Canu Info spécial anticarcéral. Alors, de quoi on va vous parler ce soir? Ce soir, on va commencer par parler de la charte de la laïcité au Québec. Ensuite, on va vous repasser un petit reportage sur les Black Panthers pour ensuite pouvoir vous parler de la libération d'un ex-Black Panther. Puis un petit point sur l'aide juridictionnelle, parce que ça a pas mal brassé ces derniers temps. On va vous parler aussi d'un directeur de prison qui avait été inculpé, enfin bon, qui était passé en procès pour la mort d'un détenu dans sa prison en Meurthe-et-Moselle à Nancy. Ensuite, on va vous lire une lettre de Christine, qui était la bergère. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on vous recontextualisera, on vous en a déjà parlé plusieurs fois. Ensuite, un petit coup de gueule, les fameuses brèves de détention, les fameuses brèves d'évasion et un petit point sur Madagascar. Voilà, donc commençons avec la charte de la laïcité au Québec.
Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a assez un petit peu de temps, il y avait eu un débat en fait sur l'identité nationale en France. Et en fait, à Montréal en ce moment, il y a une charte qui s'appelle la charte des valeurs québécoises, qui est défendue par le gouvernement de la province et qui cible encore une fois la communauté musulmane. En fait, le principe, c'est que c'est interdire aux employés du secteur public tout port de signes religieux au nom de la laïcité et de l'État. Ouais, je pense que ça doit rappeler un peu quelques petits souvenirs, en fait.
Mais il n'y a pas très longtemps, ils ont fait la même en France. Hein.
Oui, c'est ça. Mmh. C'est ça.
À la rentrée, là, comment il s'appelle, le ministre de l'Éducation, il a fait sa petite charte aussi, en dorure.
Exactement, ouais, c'est ce qui a été mis en place là au mois de septembre.
C'est ça, c'est ouais, ça.
C'est ça.
En même temps que le nouveau rythme scolaire.
C'est ça. Et donc en fait c'est une question d'identité nationale, de burqa, de voile à l'école, et toutes ces thématiques ont émaillé autant le mandat de Sarko et qui rejaillissent aussi aujourd'hui à l'heure actuelle au Québec. Il y a depuis plusieurs mois en fait les médias canadiens ont focalisé leur attention sur une série de micro-événements liés aux pratiques religieuses, comme par exemple le cas d'un centre de la petite enfance qui ne sert plus que des repas halal, ou encore la décision d'une municipalité de ne plus présenter de crèche de Noël devant l'hôtel de ville. Ça fait un peu le même truc qu'en France, c'est que ces sujets, en fait, ils ont été amplifiés par une opinion publique forcément divisée. Ils sont devenus un peu un enjeu politique. À l'heure actuelle, c'est un gouvernement centriste, en fait, de Pauline Marois, qui est la première ministre de la province. Elle a donc choisi au début du mois de publier une charte des valeurs québécoises, qui était censée calmer, en fait, tout le monde en édictant des règles fixes pour clore les discussions. En fait, le texte, il a fait que prolonger la controverse. Dans les rues de Montréal, en fait, il y a eu beaucoup de manifestations et les anti-chartes ont défilé le 14 septembre et les pros le week-end dernier. Une partie de la jeunesse s'inquiète d'une montée de l'islamophobie, alors que le Canada, en fait, pendant pas mal de temps, se targuait jusqu'ici d'être une terre de tolérance et de multiculturalisme. Il y a beaucoup d'entreprises, en fait, qui craignent des difficultés de recrutement si on leur interdit d'embaucher certains croyants. Et donc voilà, c'est un peu le même principe un peu que ce qui s'est passé en France, et c'est à peu près ce qui se passe en ce moment au Québec. Donc voilà pour la charte des valeurs québécoises.
Et nous, on va partir tout de suite dans les années 68-70 aux États-Unis pour parler des Black Panthers, voilà, pour revenir après actuellement. On vous laisse avec un reportage d'Agnès Varda.
La panthère a été choisie comme emblème parce que c'est un animal noir et magnifique qui n'attaque pas mais se défend férocement. Oakland, près de San Francisco, 400 000 habitants, dont 20% de noirs vivant dans un ghetto. Leur vie est difficile et personne ne les aide. Dans ce collège, Huey Newton et Bobby Seale ont décidé d'apprendre à leurs frères les noirs à se défendre contre l'agression. Et tout d'abord contre ceux qui sont l'image même de l'agresseur, du colonisateur et du raciste, les policiers, appelés plus couramment les cochons. Ainsi est né le Black Panther Party for Self-Defense. Dès 1966, profitant d'une loi qui autorise le port d'une arme chargée à condition que l'arme soit en vue, les Black Panthers patrouillent le ghetto en suivant les voitures de patrouille des policiers. Sitôt qu'un noir est arrêté, Ils surveillent l'opération et disent aux frères noirs quels sont ses droits. Résultat, la police les hait et la communauté noire les admire. Depuis, la loi ayant changé, ils ne circulent plus les armes à la main, mais ils continuent à en parler beaucoup, citant Mao, rêvant d'obtenir le pouvoir grâce au fusil et la justice grâce au pouvoir, afin que la loi dans la jungle noire soit faite par la panthère plutôt que par le cochon. La police d'Oakland, célèbre pour sa brutalité, ne cache pas sa haine pour les panthères noires. Tout est bon pour les harasser, les piéger, les fouiller, entrer dans leur maison sans mandat d'arrêt et tirer dessus à l'occasion, allant jusqu'à leur tirer dans le dos, comme ce fut le cas pour Bobby Houghton, 17 ans, qui courait, désarmé, s'enfuyant d'une cave où il s'était réfugié avec Eldridge Cleaver, après une bataille rangée où 50 policiers avaient tiré 1000 cartouches. C'était le 6 avril 68, au cours d'une soi-disant tournée de routine, deux jours après l'assassinat de Martin Luther King à Atlanta. Quant à Newton, c'est pendant la nuit du 28 octobre 67 qu'une vérification de permis de conduire a dégénéré en tuerie. Qui a tiré? Qui était armé? Il y a eu 9 coups de feu, les témoignages sont contradictoires, mais un policier est mort, et l'autre blessé n'a pas vu d'arme dans la main de Newton. D'ailleurs, il faisait nuit noire. Newton, blessé gravement lui aussi, s'est retrouvé à l'hôpital avec des policiers qui le menaçaient autour de la table d'opération. Et après 9 mois de prison, son procès est en cours au tribunal du comté. Les Black Panthers sont en permanence sur les marches du palais, réclamant la justice et faisant de ce cas un cas exemplaire, un cas limite, un cas de conscience politique. Résultat, tous les Noirs et quelques Blancs crient « Libérez Huey », sans même se poser la question de sa culpabilité possible. Et la pelouse du palais de justice est un forum où l'on commente Mao, où l'on enseigne le programme des Panthères.
Ce que nous faisons tous les jours, nous organisons la communauté. Nous rendons visite aux gens chez eux pour les éduquer politiquement et leur dire exactement ce qui se passe. Pas seulement ici à Oakland, mais dans toute l'Amérique et à travers le monde. Beaucoup de Noirs ne sont pas conscients de ce qui se passe en Amérique, en Afrique du Sud ou là-bas en France par exemple. Comme la communauté noire est une communauté qui ne lit pas, nous leur parlons, nous leur montrons des exemples dans notre journal. Nous avons des photos pour qu'ils puissent voir ce qui se passe. Lorsqu'ils auront appris ce qui se passe dans la communauté noire, alors ils pourront aller de l'avant et essayer de changer tout ça eux-mêmes.
Tout ce que nous savons, c'est ceci. Que vous ayez vos cheveux naturels ou permanentés, qu'une de vos sœurs soit coiffée à la naturelle ou à la défrisée, qu'un macro du quartier ait son petit costume de macro sur le dos ou un costume de mohair, qu'une sœur se prostitue ou que des frères travaillent dur par là dans une cuisine ou dans une usine, quoi qu'il en soit, mes frères, les cochons viendront vous assassiner, vous brutaliser, vous tuer simplement parce que vous êtes noir, sans tenir compte de ce que vous êtes. Et ça, c'est un fait.
Qui êtes-vous, Black Panthers? Que voulez-vous? Libérer Huey. Par quel moyen? L'enseignement de Huey. Quel est-il? Les fusils. De même, Carmichael a dit, celui qui est prêt à mourir est tout juste un idiot, il faut prendre un fusil pour être un révolutionnaire. C'est parce qu'ils sont une minorité en danger que les Black Panthers doivent s'affirmer si violemment et déclarer la guerre à leur ennemi immédiat, la police. Leur cri guerrier effraie et exaspère les racistes blancs qui considèrent ces panthères comme des fascistes noirs et dangereux, perdant de vue qu'ils sont bien moins dangereux que les forces de la police et bien moins fascistes. Quant à la gauche américaine, les radicaux, ils soutiennent cette campagne pour Huey, tout en craignant que la violence éclate et que la marche au Black Power, la marche au pouvoir noir, soit longue et sanglante.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, le Canu Info du vendredi soir, et le Canu Info aussi anticarcéral, donc coup contre les prisons, en solidarité avec les prisonniers et prisonnières.
Alors maintenant, on va vous parler de l'histoire des Trois d'Angola ce soir, car en milieu de semaine, Herman Wallace, je ne sais pas si vous le connaissez, et ben c'est le deuxième d'entre eux à avoir été libéré. Bon, on va récapituler un peu leur histoire pour commencer. D'abord, il y a Robert King qui a été libéré en 2001 après 31 ans de prison, dont 29 à l'isolement dans le pénitencier d'Angola aux États-Unis. Oui, car avec Herman Wallace, 71 ans, et Albert Woodfox, 66 ans, ils forment les Trois d'Angola dont je vous parle. Du nom Trois d'Angola, du nom de la prison de l'État de Louisiane aux États-Unis, là où ils ont été incarcérés. Au total, ils ont passé à eux trois plus d'un siècle à l'isolement cellulaire. À l'isolement cellulaire, ça veut dire enfermé 23 heures à 24 heures par jour, avec possibilité de voir personne et aucune interaction. Ils ont été incarcérés pour des crimes qu'ils clament n'avoir jamais commis et accusés en raison certainement de leur seule appartenance aux Black Panthers, au fait qu'ils soient noirs dans une Louisiane à l'époque ultra raciste et conservatrice. Bonsoir. Excusez-nous pour cette petite intervention.
C'est Radio Canu, radio interactive. Hein.
C'est ça. On passe, on repart. Et du coup, bon, les Trois d'Angola, on y revient. Robert King, lui, depuis sa libération, il y a presque 12 ans, il se bat pour que ses deux amis sortent de l'isolement et aussi et surtout de la prison où ils sont enfermés depuis 41 ans. Parce que être en prison, c'est une chose, mais être à l'isolement, c'est un peu la peine encore pire qu'être enfermé en prison, ce qui est déjà quand même pas très sympa. Lui, il expose son cas et celui de ses deux amis laissés derrière lui. Il s'efforce de replacer les éléments dans leur contexte. Et donc le contexte, une enfance déjà dans une Nouvelle-Orléans qui sort tout juste de la ségrégation. Une enfance pas bien dorée du coup pour ces jeunes afro-américains. Conditions de logement précaires, peu ou pas d'accès à l'éducation. La police très tôt ils la craindront. Dès qu'une affaire n'était pas résolue, ils arrêtaient un noir, parfois un jeune, et le forçaient à plaider coupable. Ils appelaient ça « nettoyage d'archives », histoire de boucler les cas. Pour sa part, Robert dit bien dans le documentaire consacré aux Trois d'Angola « Je n'étais pas un ange, mais je n'étais pas mauvais non plus. » Oui, il fit des vols à l'étalage et des cambriolages, des délits qu'on ne pourrait par contre pas juger sans analyser le contexte dans lequel ils ont été commis. Mais bon, bref, lui, il ne sera jamais arrêté pour ce qu'il a vraiment fait. D'abord soupçonné dans une affaire de vol à main armée, il sera finalement reconnu coupable, non pas en raison de sa ressemblance éventuelle avec le réel fautif, mais selon lui, parce qu'il avait déjà un casier. Le jury de l'époque, exclusivement constitué de blancs, comme ça se faisait pas mal à l'époque, le condamnera à 35 ans de prison. Ses acolytes, eux, Herman Wallace et Woodfox, eux, eh ben, ils ont un parcours à peu près similaire. À la fin des années 60, tous les trois ils seront condamnés à de lourdes peines de prison, de 30 à 50 ans pour vol à main armée ou ce genre de délit. Et avant la prison, Herman Wallace et Albert Woodfox, ils sont déjà politisés, eux. Par contre, Robert King, non. En 70, dans un établissement pénitentiaire de la Nouvelle-Orléans, ils font la connaissance de membres des Black Panthers. Impressionnés, ils assistent aux réunions organisées, puis, très vite, adhèrent au parti qui réclame plus de justice sociale pour les Noirs. Les Black Panthers réclamaient la liberté, la justice, l'éducation, des terres, du pain, du logement, la fin des brutalités de la police et de ses descentes dans les communautés noires. Des mots qui parlent à toute une génération de jeunes afro-américains, jeunes et moins jeunes, déçus par le mouvement des droits civiques jugé trop passif et dont ils ont l'impression pour lequel ils ne se retrouvent pas forcément. À la fin des années 60-70, la vague de protestation est importante. De nombreux citoyens se mobilisent notamment contre la guerre du Vietnam. Peu à peu, le vent de contestation se propage jusque dans les prisons où les conditions sont déplorables. Le gouvernement assimilait leurs actions à des émeutes et les décrivait ainsi, mais en fait, il s'agissait d'actions légitimes pour revendiquer de meilleures conditions dans les prisons. De nombreux Black Panthers seront arrêtés et traqués par la police. À l'été 1971, descend derrière eux Robert, Herman et Albert. Ils sont envoyés en Louisiane, à Angola, l'établissement pénitentiaire considéré à l'époque comme le plus dangereux des États-Unis. Pour la petite histoire, ce pénitentiaire-là, il tient son nom du fait qu'il a été construit sur une ancienne plantation où la majorité des esclaves qui étaient exploités venaient d'Angola. Et donc, ils arrivent à la prison d'Angola, au pénitentiaire d'Angola. Là, ils découvrent une prison où la ségrégation prédomine toujours, où les conditions de détention sont exécrables et le climat de violence omniprésent. Passage à tabac, exécution, vente de jeunes détenus à des fins sexuelles. Les responsables sont au courant de ces pratiques, mais ils les laissent faire. Les détenus travaillaient tous les jours, plus de 17 heures par jour, pour 2 cents de l'heure. Nous appelions ces prisons des camps d'esclaves. C'en est pas loin, effectivement. Herman Wallace et Albert Woodfox décident d'agir. Ils organisent une grève afin d'obtenir de meilleures conditions de travail, initient leurs co-détenus, noirs comme blancs, à la politique, les informent de leurs droits. Avec un certain succès, ils s'attaquent aux abus sexuels commis par les gardiens détenus en organisant des groupes de sensibilisation sur ces questions. Autant d'actions qui n'étaient pas sans effrayer la direction de l'établissement. C'est précisément ces initiatives qui ont fait d'Herman et d'Albert des cibles aux yeux de l'administration pénitentiaire. En 1972, un gardien de prison blanc, Brent Miller, est assassiné de 32 coups de couteau. Les premiers soupçonnés ont été évidemment les militants ou sympathisants des Black Panthers. Rapidement, l'étau se resserre autour d'Herman Wallace et d'Albert Woodfox. Après une enquête bâclée, ils deviendront les principaux suspects de ce meurtre. Dépeints par l'accusation comme extrémistes, dangereux, racistes, menaçant de renverser le gouvernement, voire d'éliminer la race blanche, ils seront, à l'issue d'un procès fantoche, condamnés à la prison à vie. Et ce, malgré l'absence de preuves irréfutables, aucune empreinte, aucune expertise médico-légale, bref, aucun élément matériel permettant d'établir leur implication dans le meurtre du gardien. Plus troublant encore, des empreintes retrouvées à proximité du jeune gardien et susceptibles de les disculper sont, malheureusement et malencontreusement, égarées. Les témoignages du co-détenu, au fil des années et des documents, ils se révéleront peu crédibles. Un homme quasiment aveugle affirmera avoir clairement reconnu les accusés. Quant à l'unique témoin oculaire du crime, des éléments laissent à penser qu'il aurait incriminé les deux hommes contre une remise de peine. Leur condamnation prononcée, Herman et Albert seront immédiatement placés à l'isolement cellulaire. Pour l'administration pénitentiaire, aucun doute, le meurtre était fait d'une conspiration de militants noirs. Il constituait une menace pour le pénitencier. Il fallait donc les maintenir loin des autres. Viendra le tour de Robert King. Deux semaines après le meurtre du jeune gardien, il est transféré à Angola où il fait l'objet d'une investigation, également pour le meurtre de Brent Miller, alors qu'il se trouvait à environ 240 km d'Angola le jour du crime. Peu importe, il faisait partie des Black Panthers, il était perçu comme un conspirateur. Il a été placé en confinement cellulaire comme Herman et Albert. De 1972 jusqu'à sa libération en 2001, il restera sous investigation et demeurera à l'isolement dans une cellule de 2 mètres sur 3 mètres, 23 heures à 24 heures par jour, tout comme Albert Woodfox et Herman Wallace pour un meurtre qu'il ne pouvait pas avoir commis. Peu de temps après son arrivée à Angola, un co-détenu est tué. Un prisonnier avouera le crime et plaidera la légitime défense. Mais Robert sera également accusé. L'histoire se répète, pas d'empreinte le reliant à la victime, pas de traces de sang sur les vêtements. Le procès de Robert sera expéditif, c'était une décision précipitée de l'État de Louisiane, qui cherchait à tout prix à poursuivre un militant des Black Panthers. On dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques aux États-Unis. Nous en sommes la preuve vivante que si, dira King. Il faudra ensuite attendre les années 90 pour que de jeunes avocats rouvrent les dossiers et que les trois d'Angola sortent de l'oubli. En parallèle, se créent des comités de soutien. Robert sera le plus chanceux. En 2000, son avocat plaide l'irrégularité du procès, le manque de preuves et invoque le droit, garanti par la Constitution américaine, de bénéficier d'un jury représentatif, c'est-à-dire pas uniquement composé d'hommes blancs, par exemple. Un nouveau procès s'ouvre. L'État de Louisiane propose un marché. Il demande l'annulation de la peine de Robert King s'il plaide coupable du crime mineur d'association de malfaiteurs. Robert réfléchit longuement. Il ne veut pas qu'il y ait de doute sur son innocence. Mais il finit par se résigner. En février 2001, il sort du tribunal, libre. Albert demeure à l'isolement quant à eux. Le combat de Robert commence. Nous avons déjà obtenu que la condamnation d'Albert soit cassée par trois fois. La dernière annulation date de février 2013. Les juges ont motivé leur décision en invoquant la discrimination raciale, les fautes commises par le ministère public, le manque de compétences des avocats et la dissimulation de preuves susceptibles de disculper cet homme. Mais Albert Woodfox n'est toujours pas libéré. Le principal obstacle, le procureur de l'État de Louisiane, Buddy Caldwell, qui systématiquement fait appel du rejet de la condamnation d'Albert Woodfox. Le procureur ne veut rien entendre, pas même la voix de la propre veuve du gardien assassiné, Tini Verrettes. Convaincue elle-même de l'innocence des trois d'Angola depuis plusieurs années, elle demande en vain à la justice de retrouver les vrais coupables. Et ce mardi 1er octobre, Herman Wallace, quant à lui, a été remis en liberté après 41 ans de prison. Un juge a enfin reconnu que son procès n'avait pas été équitable et a annulé sa condamnation à vie. Malheureusement, atteint d'un cancer du foie en stade avancé, il a été emmené directement à l'hôpital et décédé ce vendredi 4 octobre au matin, du coup aujourd'hui même. Le combat pour Albert Woodfox, quant à lui, continue, parce que c'est le seul des trois militants à être toujours à l'isolement et à toujours pas avoir vu sa condamnation cassée. Et redisons-le, à eux seuls, les trois d'Angola cumulent un total de plus d'un siècle derrière les barreaux, à l'isolement 23 heures, voire 24 heures par jour. Ils sont pas les seuls à pourrir en tôle pendant des années pour des raisons plus ou moins douteuses, et pour ça aussi, le Canu Info... du vendredi, le Canu Info Anticarcéral parle aussi pour soutenir toutes celles et ceux qui pourrissent derrière les barreaux.
Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Et maintenant, on enchaîne sur Christiane Taubira et son effet d'annonce par rapport à l'aide juridictionnelle. Du coup, elle voulait proposer une réforme par rapport donc à l'aide juridictionnelle. Qu'est-ce que c'est donc ? C'est une aide qu'octroie l'État quand tu touches moins de 929 euros quand tu as des problèmes juridiques. Du coup, tu as besoin d'un avocat. Ça paye l'avocat à ta place. Et ça peut être pour tout. Hein. C'est... C'est aussi, t'as des problèmes, t'as un litige quand t'as acheté une voiture d'occasion. Ça peut être aussi, tu vas te faire virer de ton appartement parce que t'as des arriérés et du coup, tu peux avoir un avocat. C'est pour toutes les situations, que tu sois victime ou partie civile. Et du coup, la proposition était de restreindre celle-ci et de trouver de nouveaux financements, parce qu'en fait, il y avait un des financements principaux là, qui était la taxe, une taxe de 35 euros dès qu'on ouvre des frais en justice, qui a été retirée. Et du coup, il fallait trouver d'autres moyens de financer cette aide juridictionnelle, et il n'y en avait plus vraiment. Du coup, il y avait envie de remoduler les frais des avocats, baisser les frais des plus riches, de faire un nivellement, et en même temps de restreindre l'accès à l'aide juridictionnelle dans ce que j'ai lu vite fait. Par exemple, si tu avais un avocat commis d'office en garde à vue, tu passais en comparution immédiate, tu devais garder ton avocat commis d'office, ou des petites bidouilles comme ça qui modifiaient un peu ta capacité à te défendre quand t'es pauvre. Alors du coup, il y a une trentaine de barreaux d'avocats qui ont fait grève aujourd'hui. Barreaux d'avocats, ça fait bizarre. Bon, du coup, je ne sais pas combien d'avocats ça fait, mais ça a l'air de faire nombreux. Assez nombreux pour que Christiane Taubira revienne en arrière et fasse une proposition de loi dans le but de réformer l'aide juridictionnelle. Du coup, pour l'instant, c'est toujours maintenu. Le truc qui était que les avocats y dénonçaient, en fait, c'était que les avocats, en fait, qui décident de travailler avec des clients qui n'ont pas assez de thunes pour leur payer, du coup, en l'aide juridictionnelle, seraient les avocats les plus pauvres, parce qu'ils décideraient de défendre les personnes les plus pauvres de la société, et du coup, eux, ils trouvaient vraiment cette réforme injuste, parce que déjà, ils n'arrivent pas à finir les fins de mois, et aussi les jeunes avocats qui sont dans... La précarité, ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, ils viennent juste de commencer d'ouvrir leur cabinet, et du coup, ils touchent autour du SMIC pour un taf assez important. Du coup, ça a foutu mal auprès de Christiane Taubira de foutre encore plus dans la précarité ses avocats. Du coup, c'était un peu pour, si on en parle dans le Canu Info contre les tôles, c'est un peu parce que si t'as une bonne défense, si t'as un bon avocat, et il est bien renommé, et ben t'as pas les mêmes...
Si t'as une bonne situation sociale aussi.
Voilà, t'as pas les mêmes risques. Et du coup, quand des personnes se retrouvent derrière les barreaux, ils savent bien l'importance que c'est de choisir son avocat, quelle place il va mettre, aussi comment tu galères, parce que est-ce que la personne va réellement vouloir représenter ce que tu veux défendre, ce que tu veux dire, sans aussi te victimiser, t'infantiliser, t'humilier publiquement devant les tribunaux. Voilà, et du coup aussi c'était un peu genre là c'était l'aide juridictionnelle, ce qui était annoncé ce matin c'était l'aide juridictionnelle pour les plus pauvres à les sauter, et du coup ça faisait vraiment, déjà il n'y a pas de justice, alors là il allait en avoir encore moins sous le gouvernement PS. On enchaîne avec un petit morceau de Derrière les fagots.
كل سم الجاري بدمي سنة ب2007 سلق لك الراس كتير وشه صبغة سلق لك اي لحظة فيك تصير غبرة اجا مين يحرق ارضنا الخضرة امر جاي من برا القبر انه يضلوا البلاد لورا لانه بلدنا مثل المرا بلد ضعيف ضعيف بالمرة نصيحة لمين ماشي عالطريق طلع شمال يمين بعد البريق جسدك حتكون شمال يمين والحق عمين جماعة الاسلام بس عمين عرف عن نفسك فتح الاسلام عرف عن مهنتك فتح
Et toujours dans le registre « La justice n'est pas la même pour tout le monde », selon notre point de vue, on va parler en fait de Stéphane Scotto. Et Stéphane Scotto est directeur de Maison d'arrêt de Nancy. D'ailleurs, c'est l'ancien directeur de la Maison d'arrêt de Nancy et l'actuel de la prison de Fresnes en Val-de-Marne. Et où le patron, voilà, c'est comme ça qu'ils aimaient bien l'appeler aujourd'hui dans les médias, le patron. C'est un peu bizarre quand même, parce qu'il est à la tête d'un établissement pénitentiaire où on refuse le droit de grève, de syndiquer, d'aller au prud'homme et tout ça. Et du coup, je comprends pas vraiment pourquoi on l'appelle le patron. Mais bon, ça c'est... des tournures de phrases des médias et des effets, je sais pas, bling bling, que je ne comprends pas. Et du coup, il est passé au tribunal, ce monsieur, est-ce que je pourrais dire ce charmant jeune homme, je pense pas, parce qu'il était jugé pour homicide involontaire suite au décès en 2004 d'un détenu qui s'appelle Johnny, sous les coups de son co-détenu qui était déjà connu pour être violent. Et la famille du défunt reproche à l'ancien directeur de ne pas avoir exercé de vigilance particulière et d'avoir placé la victime dans cette même cellule de ce détenu qui était du coup jugé psychologiquement dangereux.
Et aussi, son co-détenu, il était déjà connu pour des affaires de violence sur ses co-détenus et ce genre de choses. Il avait déjà eu plusieurs jugements par rapport à ça, non pas qu'il faut tenir en compte vraiment du casier des personnes ou quoi, mais enfin voilà, c'est ce sur quoi s'appuyait la famille pour porter accusation.
Voilà. Et en fait, du coup, ce qui est là-dedans, ce qui est important en fait du point de vue de la famille, c'est de faire reconnaître au directeur et à l'administration pénitentiaire qu'ils ont à leur charge des individus et avec lesquels ils jouent avec la vie et la mort. Et du coup, en fait, d'impliquer le directeur de prison là-dedans, c'est de mettre que lui, en fait, il décide sciemment de mettre dans les mêmes cellules des personnes et quitte à ce que les gens en meurent. Du coup, qu'il n'y a ni protection, ni choix d'élite, qu'il y a choix là-dedans. Et lui, il s'est défendu en disant, voilà, il y a surpopulation dans l'ancienne prison de Nancy. Du coup, depuis, ils en ont reconstruit une nouvelle. Et nous, on pouvait malheureusement rien faire. Et ça a marché, il a été relaxé. Il faut savoir que c'était la première fois en France qu'un chef d'établissement d'un centre pénitentiaire était jugé devant un tribunal correctionnel pour homicide involontaire, et deux autres directeurs étaient déjà passés en examen pour ce même motif à la suite de suicides de détenus dans les années 2000, mais ils avaient bénéficié de non-lieu. Alors je vais vous citer vite fait les avocats qui sont les représentants des parties civiles et des victimes. Du coup, maître Xavier Yoshum, l'avocat des frères de la victime, a annoncé leur intention de faire appel, parce qu'après un combat judiciaire aussi long, on ne peut pas rester là juste par principe. Et du coup, du côté de l'avocat de ce monsieur-là, je suis poli en disant monsieur, et bien pour lui c'était une décision attendue par toute l'administration pénitentiaire, parce qu'il est très important pour les directeurs d'établissements pénitentiaires de ne pas être recherchés positivement dans le cas d'une responsabilité indirecte. On rappelle qu'ils sont poursuivis dans ce truc-là, c'est parce qu'en fait ils ont à leur charge des personnes qui sont quasiment sous leur tutelle en fait, vu qu'ils sont privés de leur liberté et qui décident de leur mouvement et de ce qu'ils ont le droit ou pas de faire dans ce centre pénitentiaire. Et par exemple, on peut se rappeler l'affaire de la prison de Châteaudun, où ce qu'on vous racontait il y a 15 jours, là, un des détenus, du coup, s'était battu avec une personne et après avait été placé dans un autre quartier. Voilà, du coup, juste pour rappeler, en fait, le choix qu'ils ont, en fait, de bouger les personnes et d'en faire ce qu'ils veulent. Et surtout, la personne, elle a été... Bon, je voulais pas rentrer dans les détails, mais on peut quand même rentrer dans les détails. Elle a été tuée de 200 coups de couteau. Elle a été torturée pendant toute une nuit. Et on peut se demander où était l'administration pénitentiaire, où étaient les matons, qu'est-ce qui se passait, quoi, comment. Du coup, voilà, on souhaite bon courage à la famille pour lutter. Et quant au prisonnier qui, donc, du coup, a vraiment fait le meurtre, et voilà, et lui, il a écopé d'une peine de 27 ans de réclusion avec sûreté. Alors voilà, non, la justice n'est pas la même pour tout le monde. Il y en a un qu'on enfonce bien et l'autre qu'on maintient dans ses postes de haute de direction de pouvoir.
Sans même se poser la question de...
On enchaîne avec Radio Canu, la radio où les pauses musicales sont un peu compliquées, parce qu'on parle, on fait la technique en même temps, on est sur l'ordinateur, sur internet pour trouver des actualités les plus fraîches possibles, c'est un taf de ouf. Et voilà, on continue avec donc Christine la bergère, on l'aime bien Christine, et elle continue à faire parler d'elle, et en tout cas elle passe aussi en procès quand elle se rebelle.
Alors, le parquet a requis un an de prison pour le procès de Christine. Le tribunal rendra sa décision le 21 novembre. Au tribunal, la bergère emprisonnée défend ses droits bec et ongles. Alors, ouais, bon. Une bonne vingtaine de personnes soutenaient par leur présence la prévenue, jugée hier après-midi en comparution immédiate. Vers 13h, ces personnes ont distribué des tracts et des liens vers le site Rébellion qui consacre plusieurs articles à la bergère de la Drôme. Une affaire judiciaire qui tend à verser dans la politique. Le dossier Bapalmois de cette détenue avait fait l'objet de 3 renvois. Elle qui était bergère dans la région de Sisteron est incarcérée depuis le 8 novembre 2012 pour altercation avec un représentant de l'autorité pénitentiaire. Cette femme de 42 ans a vu sa peine s'allonger car elle a à plusieurs reprises fait l'objet de plaintes pour violence envers des surveillants pénitentiaires. Elle a ainsi été incarcérée dans différentes prisons avant son transfert en avril au centre de détention de Bapaume. Elle est aujourd'hui emprisonnée à Séquedin. Et par ailleurs, elle a 12 mentions à son casier judiciaire liées à la contestation de l'autorité. Arrivée au tribunal hier sous escorte renforcée, comparaissant depuis le box, elle expliquera que durant son premier mois à Bapaume, tout s'est bien passé, mais un incident vient gripper la mécanique. Une surveillante lui interdit l'accès à la salle de sport car il faut se faire inscrire et elle ne l'est pas. Elle rétorque qu'elle fréquente cette salle depuis 3 semaines et ne prétend pas y renoncer.
À partir de ce moment, les conflits se multiplient entre la détenue et les surveillants pénitentiaires, jusqu'à des violences envers l'un d'eux le 25 mai 2013, assorti de menaces sur un de ses collègues. De nouvelles violences le 28 mai, toujours envers un surveillant, une inscription à la craie sur le mur de la cour de promenade le 29 mai. Ce qu'elle avait écrit sur le mur, c'était mur par mur, pierre par pierre, nous détruirons toutes les prisons. L'incendie de sa cellule le 30. La prisonnière a également refusé de se soumettre à une prise d'empreinte le 12. C'est pour ces faits qu'elle a été jugée hier. Le président du tribunal rappellera les faits, le contexte, en se basant sur des témoignages qu'il a décrivent comme agressifs, toujours dans la confrontation et la provocation. Son parcours carcéral est émaillé d'incidents ayant un élément déclencheur identique. La détenue demande à faire valoir ses droits, ce que tout le monde fait quand t'es pas enfermé. Et ce, de façon radicale, car les textes, elle connaît, contrairement à l'immense majorité des personnes enfermées, rappellera-t-elle. Ainsi, elle bouscule son monde en demandant à téléphoner à son avocat autant de fois qu'elle le souhaite quand elle est au quartier disciplinaire, par exemple. Là où elle n'est plus dans son droit, c'est quand elle s'en prend physiquement au surveillant. On s'en fout, ça. Excusez-nous, on lit un article qui résume le truc et là on n'est pas d'accord avec ça. Hein. Parce que qu'est-ce que le droit ? C'est une question très relative. Du coup, des fois elle s'en prend au surveillant parce qu'elle en a trop marre ou je ne sais pas, mais du coup c'est un jugement et voilà, ça m'énerve. Bon, bref, on continue. Au point que pour lui apporter son repas du soir, l'un d'eux se munira d'un bouclier. J'avais oublié de lire l'article avant. Alors voilà, du coup. Ils sont sous menace.
Même quand tu t'en prends au surveillant, t'es dans ton droit. Enfin, je veux dire, t'as quand même les droits, en fait.
Ah oui, c'est une forme
même
de...
Même concrètement.
C'est ça. Du coup, voilà, Christine, mais pour rappeler aussi que Christine, elle est petite. Elle fait vraiment pas peur. Et du coup, les surveillants, à un moment donné, ils sont complètement déstabilisés par cette nana. Et ils en arrivent même à avoir un bouclier. Parce qu'on est dans un film moyenâgeux. Elle est forte, t'étais très forte, Christine. Et l'expert psychiatre décrit dans son rapport sa posture vindicative, sa tendance à tout théâtraliser, son absence de remise en question. Bon, peut-être qu'il lui aussi, l'expert psychiatre, est-ce qu'il sait se remettre en question ou pas? On n'a pas son rapport psychiatrique à lui. Conscient de ses difficultés à se plier à l'arrêt carcéral, il préconise au magistrat de recourir au maximum au sursis. Est-ce que c'est inscrit aussi dans le livre des maladies psychiatriques? Incapable de se conformer aux règles carcérales. Voilà.
Et la bergère veut revenir à ses moutons, ses potes, et, comme elle le dit, pisser dans l'herbe et pas dans l'eau potable. Mais l'avocat de l'administration pénitentiaire, soulignant la difficulté du métier de surveillant, bien sûr, c'est vraiment très très dur, ses nécessaires qualités de médiation, veut couper court à la réputation de mouton noir que ces professionnels traînent sur les pages internet rédigées par les partisans de la détenue. Et donc, le parquet, au final, a requis 1 an de prison. Le tribunal rendra sa décision le 21 novembre, et évidemment, nous, on est du côté de Christine et pas du tout du côté des matons.
My own,
حكي لها القهر اللي بقلبي لنا ما كلا سمي لجاري بدمي عكل إنسان بس بشرفي بعقلي بأهلي بوطني بمستقبلي حكي لها القهر اللي بقلبي لنا ما كلا سمي لجاري بدمي سنة ب2007 سلق إنك الرأس كتير وجه صبغة.
Et oui, ils avaient envie d'écouter Malika jusqu'au bout, mais non, vous êtes dans le Canu Info du vendredi soir et on a encore des choses à vous dire. Et là, on fait un coup de gueule contre ceux qui construisent des prisons. Parce que du coup, on part d'une revendication principale de la paix, c'est la surpopulation. Et l'autre, après qui arrive, c'est l'insécurité régnante dans ces prisons, des zones de non-droit. Non, ce serait ça, un truc comme ça, où le contribuable paye pour ces prisonniers qui font tout et n'importe quoi. Alors qu'est-ce qui fait l'État quand il entend qu'il y a une surpopulation, mais aussi les gens qui sont dans les tôles disent ça, parce que c'est vrai qu'ils des fois ils sont assez dans une cellule de 9 mètres carrés. C'est voilà. Et ben eux ils construisent des nouvelles prisons au lieu de moins punir. Et combien y a-t-il de places actuellement? 56 992 opérationnels entre guillemets. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y en a encore 50 000 autres cachés dans les baumettes, dans toutes ces prisons trop dégueux?
Il y en a 30 000 qui sont pas vraiment opérationnels, mais si, qui sont quand même un petit peu occupés.
Ils ont fait corba, les prisons modernes en prison miroir comme ça, ils en ont fait, ils en ont caché, dont 911 places en semi-liberté. Pouf, ça pose le décalage. T'as pas beaucoup de possibilités d'accéder à la semi-liberté quand même, quoi. Quand dans les peines courtes, dans les peines longues, tout le temps, t'as pas beaucoup de choix. Du coup, le SPIP, il doit galérer à faire son travail. Combien de personnes écrouées? Au 1er septembre, 78 314, dont 67 088 en détention. Du coup, il y en a 10 000 qui sont avec bracelet électronique. Prison ouverte, je sais pas trop ce qu'il y a après d'autres quand t'es pas en tôle. Et qui construit ces petites tôles? Et ben c'est Bouygues par exemple avec sa filiale Thémis ou d'autres grands majors comme ça de la construction française. Et ces petits constructeurs, eh ben, ils sont fiers de leur savoir-faire en termes d'enfermement et de prison moderne et de béton. Et oui, certains se vantent de savoir construire les murs de ces lieux dégueulasses quand ceux qui y sont enfermés s'entraînent à saute-mouton pour gagner de nouveau leur liberté. À savoir que ces murs, ils sont en placo et par exemple, en juin 2008, à peine finie la prison pour mineurs à mes yeux, les jeunes en avaient ras-le-bol de l'autorité qui toute naissance des nouveaux matons qu'ils rencontraient. Et puis, ben, les murs, ils sont partis en fumée. Alors là, on va parler du centre pénitentiaire de Rion dans le Puy-de-Dôme, qui va voir le jour en 2015. Un nouveau bébé né d'un mariage mixte, comme d'autres en rêveraient, du public et du privé. Ils nous font rêver, ces politiciens, ils nous font rêver. Du coup, c'est les équipes de SPI Batignolles. Alors, si vous allez sur leur site, ils ont leur pelle et ils sont bien contents de construire cette prison. Ils y vont de bon cœur. Ils vont commencer les travaux. Non, ils ont commencé les travaux en juillet dernier pour atteindre la phase de terrassement. Les travaux de gros œuvres devraient démarrer à la mi-novembre pour une période de 12 mois. D'ici fin décembre, il y aura 5 grues opérationnelles sur le chantier. Ils vont construire un complexe de 34 000 m² pour les différents bâtiments qui composeront le site pour une capacité d'accueil de 504 détenus. Waouh!
554.
Au plus fort de son activité, quelques 300 salariés travailleront sur le chantier. Peut-être qu'ils auront les boules de construire une prison, on ne sait pas. Et le coût de l'opération s'élèvera à 80. Ah mince, j'ai une question. Est-ce que ça, c'est des millions ou des milliards? On va dire des millions. 85 millions d'euros. Ça coûte cher de construire une prison, ça coûte cher. Moi, j'aime bien me rappeler l'occupation des chantiers à Nantes contre les prisons pour mineurs et j'aime bien me rappeler le slogan « Pierre par pierre, mur par mur, nous détruirons toutes les prisons ».
Et par exemple, en parlant de quand ils reconstruisent toutes leurs grandes prisons et qu'ils font les nouvelles prisons qui sont tellement mieux pour les détenus, eh ben, je sais par exemple que dans plusieurs chantiers, dont par exemple la nouvelle prison de Nancy, ils avaient embauché carrément des détenus en semi-liberté ou des anciens détenus en réinsertion pour faire la prison. Comme ça aussi, c'est de la main-d'œuvre à pas cher et puis c'est faire travailler les gens pour construire leur propre lieu d'enfermement, quoi.
قلب بلينا ما كلا سمل جاري بدمي عكل انسمس بشرفي بعقلي بأهلي بوطن بمستقبلي عكل هالأهل بقلبي لنا ما كلا سمل جاري بدمي سنة بألفين وسبعة سنة اللي كل رأس كتير وشه صبغة سنة اللي بأي لحظة فيك تصير غابرة إجا مين يحرق أرضنا الخضرة أمر جاي من برا الأبد إنه يضلوا لبنان لورا لأنه بلدنا مثل المرأة بلد ضعيف ضعيف المرة نصيحة لمين ماشي عالطريق طلع شمال يمين بعد البريء جسدك حتكون شمال يمين والحق عمين جميع عن الإسلام بس عمين عرف عن نفسك فتح الإسلام عرف عن مهنتك فتح الإسلام بحكي عن كل إنسان مس بشرفي بعقلي بأهلي بوطني بمستقبلي عن كل هالأهل بقلبي لنا ما كلا سمل جاري بدمي بحكي عن كل إنسان مس بشرفي بعقلي بأهلي بوطني بمستقبلي عن كل هالأهل.
Et du coup, dans ces murs, bah, y a des personnes qui vivent, qui trouvent des solidarités, qui meurent, qui cherchent à se barrer le plus tôt possible ou pas. Il y a les matons qui font leur loi. Et c'est ça, les brèves de détention.
On commence avec mercredi 25 septembre, dans le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Deux gardiens ont été hospitalisés mercredi matin après avoir été frappés par un détenu qui refusait une fouille par palpation.
Samedi 28 septembre, au soir, un détenu a été retrouvé mort dans sa cellule à la prison de Châlons en Champagne. Selon l'AP, il se serait suicidé une dizaine de jours après sa condamnation à 30 ans de réclusion criminelle par les assises de la Marne. Une autopsie doit être pratiquée ce lundi après-midi.
Lundi 30 septembre, vers 16h, deux hommes avaient été arrêtés par la police de Bourg-en-Bresse après avoir projeté 6 colis dans l'ancienne du pénitentiaire. Ces dernières semaines, il y a pas mal de trucs comme ça qui ressortent de gens qui envoient des colis à l'intérieur et qui se font choper à la sortie, mais bon... Bref, ils ont été condamnés jeudi à 4 mois de prison avec sursis et 8 mois, dont 4 avec sursis.
Jeudi 3 octobre, dans la soirée... deux matons ont été agressés par un détenu alors qu'ils voulaient procéder à une fouille à laquelle ils ne voulaient pas se soumettre. Ils ont tous deux été envoyés à l'hôpital. Un gardien est blessé au genou, le second au dos.
Et mercredi 2 octobre, un détenu de 25 ans a été retrouvé mort dans sa cellule de la maison d'arrêt de Corba, encore, vers Lyon. Il se serait suicidé par pendaison mercredi matin, a-t-on appris par des matons. C'est inexplicable, a-t-on pu lire, car le détenu ne présentait aucun critère suicidaire. Il purgeait une courte peine pour des faits mineurs et était libérable en 2014. Un cas qui nous rappelle tristement et beaucoup la mort de Sofiane Mostefaoui, retrouvée sans vie dans sa cellule le 11 mars 2013. On vous en a beaucoup parlé. L'hypothèse du suicide par pendaison avait aussi été avancée par la tôle, alors que le corps portait de multiples blessures défensives et des marques de contention ainsi que de matraquage. Tout comme lui, il était jeune, purgeait une petite peine et n'avait manifesté aucune intention de se donner la mort, bien au contraire. Autre similitude, Sofiane, lui aussi, a vu finir ses jours entre les murs de la maison d'arrêt de Corba.
Et du coup, un poème trouvé sur la page Facebook Vérité et Justice pour Sofiane Mostefaoui. Dans la solitude des peines et des drames carcéraux, chaque lettre est une évasion. Les mots peuvent scier les barreaux. Réconfort des parloirs et dialogue des courriers. Un homme emprisonné, c'est une famille déchirée. Pris sans être vu ou bien vu et pris, tous sont traités comme des coupables et payent le prix. Une fois de l'autre côté du mur, tes projets s'écroulent. Tu passes ton temps à attendre que le temps s'écoule. Mais vu que le temps a tout le temps, faut le tuer pour l'ignorer. Tu comptes à rebours, les jours qu'il te reste à évaporer. Les aiguilles sont comme figées. Ta vie se réduit à l'antenne au fond des deux jours compte. Au fond, deux jours comptent celui où tu sors, celui où tu entres. Certains n'en sont jamais sortis. Sofiane en fait partie. On enchaîne avec les brèves d'évasion.
Alors oui, les brèves d'évasion, parce que pourquoi on fait ça ? Parce que quelle que soit la taille des murs et combien ils veulent nous faire croire qu'ils sont infranchissables, et ben, y en a qui essayent tous les jours, et parfois, et parmi ces personnes, il y en a qui réussissent. Donc les brèves d'évasion commencent avec vendredi 4 octobre, du coup aujourd'hui. D'après lorientlejour.com, des détenus de la prison de Roumieh au Liban préparent une évasion de masse du centre de détention le plus peuplé du Liban. On vous en parle souvent pour des histoires d'évasion et ce genre de choses. Nous sommes incapables d'estimer la quantité d'explosifs, d'armes et de moyens de communication introduits dans la prison, a révélé au journal un responsable de la sécurité. Le bloc B de la prison renferme près de 190 membres du groupe Fateh el-Islam, assez improbable. On nous informe juste de l'évasion, mais pas de la répression. Aussi, on a su qu'il y avait par exemple des gendarmes qui faisaient rentrer des morceaux d'explosifs dans des sandwichs pour les prisonniers dans cette prison.
Après, il y en a une autre du jeudi 3 octobre. 6 détenus sont évadés de la prison centrale de Bujimayi, au Kasaï oriental, République démocratique du Congo. Les agents de police ont abattu l'un des évadés, un autre a été rattrapé et les 4 autres fugitifs courent toujours.
Du 2 octobre 2013, rappelez-vous, en juillet, un détenu avait échappé à la vigilance des policiers devant la maison d'arrêt et s'était fait la belle en courant, menottes au poignet. Son frère avait fait savoir dans la presse qu'il rentrerait en prison à la rentrée pour purger sa peine parce qu'il voulait faire des vacances. Il vient de s'être fait choper par la police où il a encore tenté de s'enfuir. Il a malheureusement été présenté à un juge mardi soir pour se prendre des peines de prison supplémentaires, comme c'est toujours le cas pour tentative d'évasion, mutinerie ou insoumission, au règlement intérieur de la prison. En tout cas, espérons qu'il a eu de belles vacances au soleil.
Et le 2 octobre toujours, un ressortissant marocain sans papier s'est échappé du plus grand centre de rétention administrative de France avant de se faire expulser. Il se serait servi de drap pour pouvoir escalader la grille du centre de rétention. Le syndicat Alliance regrette qu'il n'y ait eu que 4 policiers pour surveiller 80 personnes retenues cette nuit-là. Nous, pas tellement. Notre syndicat pense qu'il devrait arrêter de surveiller les CRA et laisser les portes ouvertes pour que tout le monde se barre et les détruire. Ça serait une bonne réforme.
Ensuite, le 30 septembre, un détenu de la maison d'arrêt de Douai, dans le Nord, a faussé compagnie à 2 gendarmes vendredi à Paris, à la gare du Nord, en revenant du palais de justice de Brest. Repris 24 heures plus tard au domicile de sa mère, il a été mis en garde à vue au commissariat de la ville, dont il a été de nouveau tenté de s'évader en provoquant un important dégât des eaux, parce qu'il tentait de s'échapper via les sanitaires.
Et enfin, le 27 septembre 2013, un détenu à la maison d'arrêt d'Albi a bénéficié du 30 mars au 2 avril d'une permission de sortie. Alors qu'il s'était accordé une petite rallonge sur sa permission, ce n'est que le 4 avril qu'il a été interpellé devant un supermarché à Gaillac. Poursuivi pour évasion d'un détenu bénéficiaire d'une permission de sortie, le détenu était jugé le 27 septembre au tribunal correctionnel et a bien sûr pris 2 mois de prison ferme, alors qu'il était libérable en février 2014. Il voulait un peu de liberté, mais les juges ne sont pas prêts à la lui accorder comme ça. أمر جاي من برا الأمر إنه يضلوا البنين لورا لأنه بلدنا مثل المرا بلد ضعيف ضعيف المرة نصيحة لمين مش عالطريق طلع شمال يمين بعد البريق جسدك حتكون شمال يمين إيه والحق عمين جماعة الإسلام بس عمين عرف عن نفسك فتح الإسلام عرف عن مهنتك فتح الإسلام بحكي عن كل إنسان مس بشرفي بعقلي بأهلي بوطني بمستقبلي عن كل هالأهلي بقلبي لنا ما كل أسمي لجاري بدمي Welcome on and see the AK spray. Make way, it's me, they I'm killing your lame game. Boy, I'm out in an insane way, they say. Living on now, I gotta stay the same. No way, cause we gonna change this. Take this, puzzle and rearrange it. If trouble, you be making a hit and suckers aggravated and fascinated by how we got rid of the occupation. Shit. Commands from a random command, just tanks and handguns. Stealth planes and phantoms. Got us sitting at night under the light of lanterns. With all sides equipped, the war was already started. Let's take a second to pray for the dirty departed. Ah, take a second and I breathe. And I'm spitting lyrics on the track to make y'all believe that up in the Middle East, my brother is a me, you're being shredded to peace. بحكي عن كل إنسان مس بشرفي بعقلي بأهلي بوطني بمستقبلي عن كل هالأهلي بقلبي لنا ما كل أسمي لجاري بدمي.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. C'est toujours le Canu Info du vendredi, le Canu Info anticarcéral. Et maintenant, un petit point critique des médias.
Ouais, alors je voulais simplement parler, donc tout le monde a entendu parler de l'histoire de Madagascar. Donc je rappelle, 3 personnes, dont 2 Français, ont été lynchées par une foule sur une île de Nosibé à Madagascar jeudi. Donc je voulais juste dire qu'on en a entendu parler dans tous les médias. Enfin, moi j'ai lu plein d'articles là-dessus, je l'ai entendu à la radio en boucle ce matin. Et ce que j'ai trouvé assez choquant, c'est que en fait on croit quand même quand on entend ces infos-là, c'est vraiment les mots, c'est une foule en furie, une horde de personnes, et on a vraiment l'impression qu'on a affaire à des sauvages et il y a aucune analyse de fond du problème. Donc bon, alors les personnes en question qui ont été lynchées sont accusées de trafic d'organes. C'est pas une raison pour les lyncher, hein, on est bien d'accord, c'est pas le propos. Mais c'est plus, moi ce que j'ai trouvé très choquant, c'est qu'il y a peu d'analyse des conditions sociales et politiques à Madagascar en ce moment, parce qu'il y a quand même une grave crise politique depuis 2009 à Madagascar, et c'est un des pays les plus pauvres du monde. Et les émeutiers en question, ils s'en prennent aussi à des gendarmeries et des postes de police. Et du coup, il y a quand même un contexte politique qui vaudrait le coup d'être analysé. Et en fait, on s'occupe des lynchages essentiellement parce qu'il y a deux Français, un Français et un Franco-Italien dans les victimes. Donc du coup, apparemment, c'est une pratique qui a lieu à Madagascar. Mais je trouve qu'on pourrait en parler et l'analyser, parce que c'est grave que des personnes se fassent lyncher par des foules. Seulement, comme par hasard, voilà, c'est des malgaches et du coup, c'est des hordes en délire. Et c'est juste des faits divers, quoi. Et il n'y a aucune analyse de fond dans les journaux. Donc voilà, c'était ma petite critique des médias. Et j'en ai une deuxième.
Allez-y.
Si j'ai le temps. Et bah pareil, vous avez entendu parler, donc à Lampedusa, il y a... Un navire qui est parti de Libye, qui a coulé jeudi matin, donc près de l'île de Lampedusa, qui transportait 450 à 500 migrants, et a priori il y a 300 morts. Et du coup, donc il y a quand même pareil, pas mal d'articles là-dessus où pour le coup les journalistes et les personnes interviewées sont quand même scandalisées. À Lampedusa, apparemment, ils ont fait une minute de silence. La maire de la ville a dit qu'il fallait absolument enterrer les personnes qui avaient été retrouvées pour leur donner une sépulture. Donc les réactions, elles paraissent plutôt bien. Mais quand même, l'article que j'ai sous les yeux de Libération se termine par, donc je vais juste vous le lire, le ministre de l'Intérieur italien a appelé à changer les règles européennes qui font trop peser sur les pays d'entrée la charge de l'immigration clandestine et à surveiller davantage les côtes en Tunisie et en Libye, d'où partent les bateaux de clandestins. Donc ça viendrait jamais à l'idée de personne qu'il faut juste régulariser les sans-papiers et leur permettre de venir là où ils veulent habiter. Voilà.
Très bien. Eh bien, sur ce, on va passer à l'agenda, peut-être, Mireille.
Oui, Clotilde. Je vais vous faire l'agenda. excusez-nous, hein, si c'est vendredi soir. Alors, en fait, pour si vous êtes dans les tôles de la région lyonnaise, que vous écoutez Radio Canu, que vous avez envie de faire sortir des infos, lire une lettre qu'on pourrait lire à l'antenne, quoi que ce soit que vous voulez, et ou alors que vous êtes un proche aussi et que vous avez envie de témoigner, d'écrire un poème, une lettre, je sais pas quoi, et ben vous pouvez écrire à témoin/80, du coup l'adresse c'est témoin, ça c'est le nom de l'asso, 91 rue Montesquieu, Lyon 7e, 69007 Lyon. Voilà, et nous on sera ravis de lire vos tout petits mots.
C'est pas atelier d'écriture plutôt qu'à témoin qu'il faut écrire?
Oui, voilà, atelier d'écriture ou témoin, les deux, ça marchera. Et puis on reprendra bientôt les messages aussi, on vous dira quand on reprendra ça. Il y a un petit changement technique et du coup on fait un petit clin d'œil aux prisonnières basques et prisonniers basques qui avaient des messages jusqu'à maintenant et qui les ont plus. On vous fait un petit coucou. Et le week-end du 11-12 octobre, il y a un week-end anticarcéral avec projection, discussion et concert en soutien au journal L'Envolé, organisé par l'association Coursier Q.I à Château-Double dans la Drôme. Voilà, il y a l'info sur le site rebellion.com. Et on vous rappelle que L'Envolé, un journal anticarcéral, vient de sortir son dernier journal qui s'appelle Un salut fraternel à tous nos poteaux, c'est l'été. Et du coup, il y a des diffusions dans la ville de Lyon, et que si vous êtes en tôle et que vous avez envie de lire des témoignages de prisonniers et autres, eh ben, vous pouvez vous le faire livrer. Voilà, on vous donnera plus d'informations prochainement. On continue avec Noise Pollution et on termine par un petit morceau pour faire la transition. Solidarité à vous qui sont dans les tôles. À bientôt, dans 15 jours on revient. J'ai pas mis le bon morceau, on recommence, ciao.